plugins. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps.
Ok.
At the same time, excellent plugin for you.
Souvenons-nous du 5 novembre 2018.
Exprès, tout s'écroule.
Le quartier de Noailles, il a abandonné. Il a abandonné le quartier de Noailles.
Plugin.
C'est Agnès.
C'est Christelle pour l'exposition La Dent Creuse, cartographie de la colère dans Plugin.
Plugin. Bonjour, aujourd'hui dans Plugin, rue d'Aubagne, l'exposition La Dent Creuse, cartographie de la colère. Rappelez-vous, le 5 novembre 2018, trois immeubles s'effondraient dans le centre-ville de Marseille, causant la mort de 8 personnes et créant une dent creuse au cœur de la rue d'Aubagne. Ni oubli ni pardon, scandaient les Marseillais. De nombreuses mobilisations comme les Gilets jaunes, des femmes ou encore pour le climat ont suivi cet événement avec de la colère, des affrontements mais aussi un élan de solidarité. Les artistes Agnès Melon et Christelle Bazin ont suivi ces manifestations et capté en images et en son ces mouvements d'indignation et de révolte. En novembre 2019, un an après ces drames, elles présentaient une exposition hors norme aux rotatives de la Marseillaise. En novembre 2020, deux ans après, donc, la rue d'Aubagne est ouverte aux piétons. Cet espace vide entre le 61 et le 69 rue d'Aubagne rappelle qu'à ces adresses, une tragédie a eu lieu. C'est dans la mairie du premier secteur, qui en 2018 avait fait l'objet d'attaques virulentes, qu'Agnès Melon et Christelle Bazin revisitent leur travail avec de nouvelles œuvres suspendues, des projections, des maquettes, des installations en 3D et sonores. Agnès Melon, journaliste, photographe et décor, et Christelle Bazin, journaliste et écrivaine sonore, présentent l'expo La Dent Creuse, cartographie de la colère dans Plugin. Bonne écoute.
Je suis Agnès Melon, je suis photographe, principalement dans le domaine des arts vivants, donc de la danse. Depuis quelques temps aussi, j'utilise mes photos pour être plasticienne.
Et Christelle Bazin, je suis journaliste et aussi autrice sonore. Je travaille beaucoup sur la transformation numérique, mais aussi de toute la société des communs, notamment des communs urbains. Donc la ville, au sens d'un commun, m'intéresse beaucoup.
C'est la semaine anniversaire des événements de la rue d'Aubagne. Vous êtes toutes les deux concernées au titre artistique ou autre ?
Plutôt artistique, puisqu'on a couvert les événements des effondrements de la rue d'Aubagne et des rassemblements qui ont suivi après ce drame. Et on a fait un travail photographique et sonore.
On peut aussi dire qu'on est concerné personnellement, au sens où toi, tu es né à Marseille et que c'est une ville auquel tu tiens beaucoup. Et moi, j'habite à La Plaine depuis 5 ans. Donc, comme on a commencé juste quelques jours avant les effondrements du 5 novembre, il y a eu l'édification d'un mur à La Plaine. Donc, on était en plein milieu de la Seine, quoi.
C'est un travail de longue haleine que vous présentez dans la salle d'exposition de la mairie du premier secteur. Ce travail, vous l'aviez anticipé ou vous avez au fur et à mesure pensé que ça pouvait peut-être faire l'objet d'une expo ?
En fait, dès qu'on a suivi ces rassemblements, moi j'avais l'appareil photo, je ne savais pas si j'allais faire des photos ou simplement être là parce que ça me touchait personnellement. Et puis petit à petit, j'ai fait des photos parce que je suis photographe, donc je ne peux pas m'en empêcher. Et très rapidement, en fait, je pense que c'est au deuxième ou troisième rassemblement, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est trop important et il faut qu'on communique dessus, il faut que ça réagisse et l'art peut faire réagir. Donc j'ai dit à Christelle de prendre les sons pour faire quelque chose avec un impact fort. Il fallait du son, parce que ces sons et ces cris et ces clameurs citoyens étaient incroyables.
« C'était intéressant parce qu'on a d'abord commencé à prendre toute cette matière. Au départ, je publiais un peu sur Twitter, je faisais aussi des petites vidéos, mais je me suis rendu compte, vu le nombre de photographes qu'il y avait aussi, que c'était pas la place médiatique qui nous intéressait. Parce que Agnès a aussi été photographe de presse, mais on s'est dit non, en fait, on voudrait travailler sur un projet peut-être pour l'année d'après, c'est-à-dire prendre du recul, pas être sur les choses à chaud. Donc on a beaucoup capté, enregistré, et au fur et à mesure, on a imaginé cette cartographie de la colère, parce qu'on l'a appelée la dent creuse cartographie de la colère, parce qu'au fur et à mesure, on a vu les colères converger, c'est-à-dire au départ, on a eu la plaine, puis tout le mouvement autour du logement indigne, puis il y a eu les marches pour le climat, les gilets jaunes, la marche pour les droits des femmes. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont fini par converger. C'était assez étonnant à observer en termes de manifestations parce qu'il y avait comme des strates en fait au départ. Le démarrage des manifestations où il y a tel groupe en premier, la tête de cortège. Et on voyait des tonalités très très différentes entre les gilets jaunes qui n'avaient pas du tout l'intention de respecter de règles. Donc ils partaient avant tout le monde en mode waouh et hop. Et donc la CGT qui était débordée. Et de l'autre côté, il y avait toute la plaine et puis le logement indigne, c'était une colère très sourde, très noire, enfin ça remuait les tripes. Et par moments, des choses beaucoup plus festives, comme la marche du climat avec la batucada. Enfin, pendant 6 mois, là, c'était dingue, en fait, ce qui se passait dans la ville. On était au milieu de tout ça, plus les CRS, les grenades de désencerclement, le LBD, enfin les autres drames qu'il y a eu, parce qu'il y a eu aussi Zineb Redouane qui a été blessé puis qui en est décédé le 1er décembre. Donc voilà, donc on s'est dit, c'est un moment charnière, en fait, au moins de la ville, voire aussi de la nation, puisque ça ne concernait pas que Marseille.
Quand on retrace les événements entre la plaine et puis la rue d'Aubagne, ça a été l'apothéose presque, on pourrait dire, ou l'apocalypse pour certains. Tous ces événements, ils ont un cheminement logique par rapport à la ville de Marseille.
Oh bah oui, puisqu'il n'y a jamais de concertation avec les citoyens. Et il y a aussi, depuis longtemps, un laisser-aller, un laisser-faire sur l'insalubrité et sur la pauvreté aussi. Donc, ce qui est la richesse de Marseille, c'est sa mixité. Si demain, il n'y en a plus, ce sera catastrophique.
Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Je vais nous aider pour détruire la plaine.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Au ventre, notre ville en deuil. Marseille centre effondré, notre ville en pleurs. Prévisible donnerait presque un goût de rancœur. Combien d'alertes ignorées. Mairie mafieuse en rigolait, elle a laissé crever nos bâtiments. Peu à peu à chasser le centre de ses habitants. Projet euromètre, politique d'aménagement par la force. Demande à l'assaut les âmes, pourquoi les murs et les lacrymos.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Les toits des écoles s'écroulent, donne l'alerte. 22 millions d'euros pour détruire la plaine Noailles. En deux, toute la ville répond à l'appel CR. Reste par centaines comme sentence quand Marseille en colère. Marche unie, marche ensemble, les fissures s'aggravent. Wesh, rejoins le rallye, mon capital de la rupture. Quand même les bâtiments craquent.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Nous sommes tous les enfants de Marseille.
Écoute, le morceau emblématique de ces manifestations, hein, surtout sur la rue d'Aubagne, nous sommes tous des enfants de Marseille, de Kenny Arcana. Ce morceau, vous l'avez entendu pendant les manifestations. Il est représentatif aussi de tous ces combats. Et en même temps, on peut considérer que tous les gens qui étaient là étaient des enfants de Marseille aussi.
Au Rotative, on a fait une rencontre qui s'appelait « Marseille est-elle une ville ?». On voulait souligner l'importance de l'interdépendance des corps dans une ville, c'est-à-dire que ça ne concerne pas juste un quartier, ça ne concerne pas juste une catégorie de population, ça concerne tous les Marseillais. Une ville, c'est un commun urbain, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Si un immeuble à côté de chez vous s'effondre, ça vous concerne aussi. Enfin voilà, c'est tout un ensemble d'interdépendance. Et donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'entendais « Nous sommes tous ces enfants de Marseille », notamment la première fois à la marche de la colère, je crois que c'était la première fois que je l'ai entendu, juste après ces premiers affrontements, ça avait une force incroyable. Et là, je me suis dit, oui, en fait, Marseille, à ce moment-là, est vraiment une ville. Après, on s'est rendu compte que quand même, on avait beau être nombreux dans la rue, tous les Marseillais ne se sentaient pas concernés, donc il y a quand même encore du travail. Mais donc oui, nous sommes tous ces enfants de Marseille à résonner quasiment à chaque manifestation. Enfin, on l'entend dans les sons que l'on propose dans l'exposition.
Thank you. debout.
Présenter le petit extrait.
Au rotatif de la Marseillaise, on avait installé un son spatialisé avec 6 enceintes. Donc là, en fait, à la mairie du 27, ça s'écoute au casque. Donc c'est pas le même rendu, mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus intense finalement. C'est un extrait que j'ai appelé Marseille debout. Il y a plusieurs séquences. C'est un enchaînement de chants, de clameurs, de détonations, et qui finit par effectivement Nous sommes tous ces enfants de Marseille.
Alors là, on navigue dans l'exposition, ici à la mairie de secteur. Comme vous le disiez à la conférence de presse, il y a des installations qui sont le reflet aussi de revendications qui étaient présentées pendant les manifestations. Et vous avez volontairement voulu présenter des choses qui sont fabriquées à même l'exposition et pas forcément des choses manufacturées.
En fait, dès le départ, je me suis dit qu'il fallait faire cette exposition avec une économie faible, vu le sujet. Et il fallait aussi que les gens qui visitent l'exposition se retrouvent comme dans les manifestations. Et surtout aussi, quand on l'avait fait au rotatif, j'avais envie qu'ils retrouvent l'esprit du village. Parce que Marseille, c'est des villages qui sont mis bout à bout. Et je voulais vraiment qu'on soit dans un village de nuit. Et donc, de coller des photos sur des cartons comme les pancartes de manifestation, de les fragmenter, que les tirages ne soient pas spécialement beau, qu'on projette sur des murs écaillés, tout ça rappelle le village de Marseille surtout.
111 villages à Marseille, et en fait un seul à l'arrivée.
10 millions d'euros, ou presque, 2,50 mètres de haut, et 1000 tonnes de béton, un vrai mur de perlans.
Le mur doit tomber, le mur tombera.
Dans l'exposition, qu'on navigue d'une installation à l'autre. Il y a des grands panneaux, il y a des choses beaucoup plus petites, des choses souples, il y a des choses suspendues. Le regard dedans, dehors, les projections. C'est le reflet aussi de ces revendications qui ont eu lieu après le 7 novembre.
En fait, c'est aussi le reflet d'un travail que je suis en train de faire. Je travaille beaucoup sur l'ambiguïté et sur le fait que j'aime bien savoir que la personne qui va regarder mon travail, en se déplaçant, va voir d'autres choses, va se créer son propre imaginaire. C'est pour ça que là, on n'est pas dans des photos qui sont très narratives, mais plutôt des suggestions. Une main, un corps, une pierre, un caillou. Pour moi, c'est plus révélateur de ce qui s'est passé que de montrer un décor qui raconte tout, en fait, déjà. parce que ça veut dire que c'est ce que j'ai vu, mais c'est peut-être pas ce que les gens ont senti, ont vécu. Et la multiplication des supports, comme les tissus, comme des choses suspendues, comme des choses qui se juxtaposent, fait que la matière rapporte aussi un peu plus de mouvement, de matière aussi, et de déplacement de l'individu face aux installations.
Ce qui en fait une installation beaucoup plus artistique que journalistique, finalement.
Ça, c'est carrément voulu, parce que je trouve qu'on peut faire des photos chocs en gardant une vraie esthétique et en gardant un esprit artistique. Je trouve que communiquer avec l'art, il n'y a rien de plus subtil en fait et de plus magique, parce que justement, l'imaginaire est plus grand.
À rajouter, en fait, c'était très difficile au moment de la création de trouver le juste ton. On voulait pas être dans le factuel, mais on voulait pas être non plus dans une forme de pathos qui aurait été déplacé. On voulait être digne. D'ailleurs, les personnes qui sont venues visiter, qui ont été délogées ou qui vivent encore dans des immeubles insalubres, qui sont venues témoigner aux rotatives, ils ont senti que les choses étaient justes. Enfin, il n'y avait pas de misérabilisme. C'est pas ce qu'on voulait dire. C'est pas du tout ça. On voulait qu'ils soient touchés par ce qu'on est fait, mais qu'ils se sentent aussi reconnus, en fait. Et pas un objet un peu trop racoleur. On a pu voir, hein, pendant tous les traitements médiatiques qu'il y a eu, il y avait des traitements médiatiques qui étaient très indécents. Donc voilà, nous, c'était pas du tout là où on voulait se situer.
Oui, et puis c'est la base de mon regard photographique, c'est que je ne mettrai jamais en avant une photo où la personne n'est pas mise en valeur. Ça, c'est interdit, même si je n'ai pas le choix parce que j'en ai qu'une, je préfère la mettre à la poubelle. Donc c'était vraiment respecté, parce que là, on avait des gens qui étaient en deuil, il y avait des gens qui étaient morts, il fallait vraiment les respecter, respecter tous ceux qui étaient dans la souffrance. Moi, j'étais dans la souffrance aussi, j'étais dans la colère, je suis marseillaise. Souffrance qu'on puisse avoir des morts comme ça, oubliés dans un immeuble. Ça, c'était très important. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il n'y a pas de visage dans cette exposition. Parce que cette colère, en fait, je voulais que tout le monde puisse la prendre pour lui-même. On voit des yeux, on voit des bouches. Il fallait que les gens réfléchissent à ce qui s'est passé. Si je mettais trop de visage, on aurait identifié cette colère ou cette tristesse à une personne. Et ça, c'était interdit parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient en deuil, plusieurs personnes qui étaient décédées.
Et en colère.
On a parlé de la vidéo, des photos. Il y a trois points d'écoute sonores dans l'exposition. Tu en as déjà décrit un. Le deuxième, c'est lequel ?
Le deuxième, c'est la bande sonore de l'œuvre des lanternes. Donc, c'est une œuvre projetée sur des calques qu'on voit suspendue dans la salle de la mairie du 1-7. C'est un son qui est très particulier, puisqu'il y a un son qui ne m'appartient pas, que j'ai récupéré en fait sur Internet, qui est le son du locataire en fait, qui est sorti de l'immeuble quelques minutes avant qu'il s'effondre. Et il avait fait une vidéo pour l'amener chez son syndic 15 ou 20 minutes avant que l'immeuble s'effondre, et dans lequel on entend énormément de bruit. Il explique que c'est un son tellement emblématique, enfin tellement atroce. Et je l'ai mixé avec un moment de solidarité et d'émotion aussi. C'était pendant la marche du climat, ou un moment à l'approche en fait, du pont de la rue d'Aubagne, au-dessus du cours Lyoto. Il y a eu une minute de silence et une femme qui s'est mise à chanter l'Auvergnat, en l'adaptant à un moment à l'histoire de Marseille et aux effondrements. Tout le monde s'est arrêté, enfin, c'était incroyable, alors qu'il y avait énormément de bruit dans cette manifestation, et tout à coup tout s'est arrêté. Et donc c'est un mix avec ça, et là je vous ai refait un nouveau mix, on va dire, de ce son pour le remettre dans un contexte 2020. Et il y a eu le confinement en mars, donc il y a des sons en fait qui proviennent de ce confinement, et puis il y a eu une élection aussi quelques temps après. Donc voilà, je les ai encadrés dans ces deux moments-là. Parce que cette exposition, il faut aussi qu'elle vive. L'idée, ce n'est pas de se figer sur un moment de l'histoire de Marseille, c'est que ce moment de l'histoire de Marseille, il a créé une dynamique, et je trouve que c'était important de souligner. On va peut-être l'écouter.
Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien.
Je peux fermer la porte. Décalage. Ici, plusieurs centimètres. Il y a une urgence. Clairement. C'est porte se fermait, elle se ferme plus. Voilà, pas un décalage ici. En quelques heures, ça s'est aggravé.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, le Marseillais qui sent façon. T'es ému et mobilisé lorsque les immeubles sont tombés. Toi qui ne t'es pas résigné au mal logement, la pauvreté. Merci pour réchauffer le corps, mais dans mon âme il brûle encore à la manière d'un éclat de rire. Toi le Marseillais, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Semaine, le 5 novembre, ça va être le jour anniversaire de l'effondrement de la rue d'Aubagne. On est passé de la revendication avec une mairie de droite, on passe à une exposition dans une mairie de gauche. Ce passage-là, pour vous, artistes, il est important ?
Ah oui, il est carrément important. Il y a un an, on n'aurait jamais pu penser qu'on serait dans une institution. Si la politique n'avait pas changé à Marseille, ça serait encore impensable. Donc pour nous, c'est une marque d'espoir, c'est une marque de changement. Ça a carrément toute son importance. Puis ça a son importance aujourd'hui, justement, par rapport au contexte actuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre un confinement très dur, et notamment des personnes qui sont dans des appartements insalubres ou qui n'ont pas de logement, enfin qui sont encore délogés. Donc on a une grande pensée pour eux, mais aussi il y a beaucoup de structures culturelles, d'artistes, de techniciens, enfin je ne vais pas tous les nommer, de photographes comme moi, qui ne vont peut-être pas s'en sortir de toute cette période. Et là c'est un marque d'espoir parce qu'en fait on est dans une institution qui doit rester ouverte pendant le confinement et donc du coup cette exposition reste visible. Donc c'est un beau signe d'espoir.
Pour être complet, il faut aussi citer les gens qui ont fait la maquette, une maquette immense qui représente la rue d'Aubagne. Hein, ça part d'en haut de la rue d'Aubagne jusqu'à la Canebière. Une maquette qui reflète bien la rue d'Aubagne. Il y a quelques petites choses qui permettent de voir l'avenir, mais c'est une maquette qui reflète bien aussi cette ambiance et complémentaire de votre expo.
Alors oui, c'est le travail d'étudiants de l'école d'architecture. Ils sont plus étudiants maintenant, mais ils l'étaient à l'époque. La maquette est assortie d'un livre qui est très complet, très intéressant. Enfin, moi, j'ai eu du coup la chance de le parcourir et il est visible à l'exposition. Les étudiants en parleraient mieux que nous, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un niveau de réflexion. Et rien que le fait qu'ils aient travaillé à 14 étudiants ensemble, ça c'est assez peu commun en travaux de fin d'études d'école d'architecture. Et ils sont allés s'immerger dans la rue d'Aubagne, ils sont allés discuter avec les habitants, donc ils étaient vraiment dans toute l'architecture moderne, moi je dirais, de ces idées de permanence architecturale, de travailler avec les habitants, de penser à un projet pour les gens qui habitent rue d'Aubagne et dans Noailles et pas pour des nouvelles personnes, contrairement à la mairie d'avant, effectivement, qui était plutôt dans cette idée. Donc c'est vraiment un travail intéressant, plein de références, plein d'idées. Voilà, après je ne suis pas sûre que ce soit le projet qui sera retenu, mais je leur dis chapeau parce que c'était vraiment un très beau travail. Donc le troisième son que l'on peut entendre dans l'exposition, c'est les paroles de Délogés. On était rue Beauvau juste avant Noël et on a pris vraiment beaucoup de sons à ce moment-là. Il y avait énormément de personnes qui venaient, du coup c'était un espace d'accueil. Donc il y avait à la fois les gens qui témoignaient et puis il y avait les gens du collectif du 5 novembre qui essayaient de faire avancer les dossiers avec les agents municipaux. Et c'est une triangulaire qui était très intéressante. Et donc c'est un extrait de ce son-là et ça finit avec l'hommage qu'il y a eu l'année dernière sur un moment de cette manifestation que j'ai trouvé très touchant. Voilà.
J'habite au boulevard de la Libération.
Vous avez été évacué à, ouais. À quel moment ?
Le 18 novembre.
Ça s'est passé comment ?
J'oublierai jamais.
Vous dit, vous êtes le seul média.
Et vous êtes retourné depuis ?
Non, on est à l'hôtel toujours.
Vous n'avez pas pu réaccéder à vos appartements, à votre appartement ?
Comment ?
Vous n'avez pas pu revenir dans l'appartement
non, non.
pour.
c'est à détruire.
C'est à détruire. Ah bah.
Allez-y, madame. Voilà, vous allez patienter un peu le temps parce qu'il y a trop de monde debout là. Et ça sert à rien de vous faire attendre, vous allez attendre dedans, debout.
Ça sert à rien. Bon, autant attendre dehors, debout, c'est mieux.
Prenez un peu de temps.
Au moins, il y a du vent.
Vous allez rester debout, vous allez.
Alors, bonjour, ça va?
J'ai une voix ou pas?
Rien. Samedi, ils ont appelé personne. Ils ont appelé trois personnes, trois familles, qui de 15h à 21h, ils se sont fait balader d'hôtel en hôtel et ils sont retournés à leur hôtel de merde au final. Voilà.
Bon courage.
Je vais juste dire une chose, c'est que notre intention avec cette exposition, c'était déjà de se rappeler que c'était vraiment très très grave ce qui s'est passé. C'est la gravité de l'événement du 5 novembre. Il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas qu'elle se lisse dans le temps. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Et ce que je retiens de ces événements, c'est l'élan de solidarité. Et je pense que ça aussi, on a besoin de s'en rappeler. Parce que c'est des moments où là, on va être extrêmement isolé. Enfin, peut-être moins qu'en mars, mais en tout cas, on va vers une société sans contact. Et là, on a été au contact tous les uns des autres. Pour moi, c'est des mémoires importantes pour la suite.
D'où le sous-titre, cartographie de la colère.
Ah oui, tout à fait, ouais. On est vraiment en colère, là. Mais avec de l'espoir.
La Dronqueuse, l'exposition ici à la mairie du premier secteur. On rappelle, l'exposition, elle est visible au moins jusqu'au 1er décembre, hein, pour l'instant. Il pourrait y avoir éventuellement une prolongation. 61 La Canebière, dans les locaux de la mairie du premier secteur. Voilà. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose?
Donc, la Dancreuse cartographie de la colère, on n'était pas seul. Il y avait donc, bien sûr, Agnès et moi, mais il y avait aussi Maëlle Lejard qui m'a aidé sur la composition sonore d'un des sons, notamment celui dont on parlait sur Nous sommes tous les enfants de Marseille. Et puis, il y avait Evelyne Rigaud, Philippe Boinon, Étienne Grand-Guillot, Patrice Poyet. Enfin, il y a toute l'équipe de VART5, en fait, Claire Desmazières. On était une petite dizaine, en fait, à travailler. Et puis, plus toutes les personnes qui sont venues nous aider bénévolement en tant que Camille, pour l'accueil, etc. Enfin, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais on a été bien accompagnés et je les remercie du fond du cœur.
Si on se quitte sur un morceau, vous choisissez quel morceau représentatif de votre travail?
Je ne sais pas si ce sera représentatif du travail, mais j'avais envie d'écouter Prince, Sign of Time, parce que je pense que là, le monde est vraiment fou et qu'il y a énormément de choses dans ses paroles qui m'inspirent ce moment.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Baby, make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
L'exposition La Dent Creuse, cartographie de la colère, parcours artistique, visuel et sonore d'Agnès Mellon et Christelle Bazin, d'après le drame de la rue d'Aubagne, est à voir et à entendre pendant le confinement jusqu'au 1er décembre 2020 aux heures d'ouverture dans la salle d'exposition de la mairie des 1er et 7e arrondissements. Infosite La Dent Creuse, cartographie de la colère sur Facebook. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos, interviews et concerts. Et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire.
Plugin. Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 10h, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.